Vous écoutez, on lit pour vous.
La crise climatique imposera des choix difficiles aux îles de la Madeleine. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir. Les îles de la Madeleine subissent plus que jamais les effets du réchauffement climatique et l'archipel espère obtenir sous peu le financement nécessaire pour se préparer à ce qui l'attend dans les années à venir. En entrevue au Devoir, le maire Antonin Valiquette est toutefois formel. La crise imposera des choix difficiles. Il ne sera pas possible de préserver l'entièreté de ce territoire symbolique du paysage maritime du Québec. Il faut accepter l'idée que les îles vont se transformer. On ne pourra pas tout protéger, explique-t-il en évoquant les multiples menaces qui pèsent sur cette région située en plein cœur du golfe du Saint-Laurent. Le dérèglement du climat mondial provoque une montée du niveau des eaux, un déclin du couvert de glace qui protégeait les îles contre l'effet des tempêtes hivernales et une augmentation probable de la force et de la fréquence des ouragans qui remontent vers le nord pour frapper l'archipel. Antonin Valiquette rappelle d'ailleurs que les tempêtes Dorian en 2019 puis Fiona en 2022 ont provoqué de sérieux dégâts en plus d'offrir un aperçu de ce qui attend la communauté insulaire au cours des prochaines décennies. Au plus fort du passage de Fiona, une marée de plus de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer a entraîné une submersion côtière très importante dans les secteurs de la Grave, du chemin des Chalets, de la pointe de Havre aux Maisons, de la pointe de Grande-Entrée et des quais de l'archipel. Les vagues exceptionnelles qui ont déferlé sur les falaises ont aussi emporté avec elles, à certains endroits, plusieurs mètres de littoral. Le maire insiste aussi sur les risques pour l'unique lien routier qui relie tous les secteurs de l'archipel. Avec la récurrence de tempêtes de plus en plus fortes, on ne veut pas se faire prendre avec une rupture du réseau routier. Si la route 199 est coupée, on parle du lien routier, mais aussi d'infrastructures d'Hydro-Québec, de télécommunications. Si la rupture se produisait entre Havre aux Maisons et Grosse-Île, on pourrait se retrouver avec plus de 1 000 citoyens isolés et plongés dans le noir. Ce n'est pas une option, souligne-t-il. Adaptation. Dans ce contexte, la municipalité des îles de la Madeleine mise plus que jamais sur l'adaptation, fait valoir M. Valiquette. Nous avons suffisamment d'études qui nous démontrent qu'il faut s'adapter au changement climatique. C'est un secret pour personne. Les îles sont aux prises avec les changements climatiques, mais c'est vrai ailleurs au Québec. Il faut donc prévoir et s'y préparer, pour éviter d'être complètement dépourvu au moment des événements. La ville mène actuellement des démarches auprès du gouvernement Legault afin d'obtenir le financement nécessaire pour réaliser des travaux sur des dizaines de sites désignés comme vulnérables à l'érosion et à la submersion côtière. Un cadre d'intervention sur 85 sites a été présenté en septembre à la demande du gouvernement du Québec à la suite d'une demande de financement de 80 millions de dollars déposée en 2020. Le montant risque vraisemblablement d'être plus élevé parce que nous sommes maintenant 3 ans plus tard, mais nous allons dévoiler les détails une fois que les démarches seront plus avancées avec le gouvernement du Québec, souligne le maire, en saluant l'implication provinciale dans le dossier. Un décret a été adopté en novembre afin d'exempter les travaux à venir de la procédure d'évaluation environnementale qui serait normalement requise dans une telle situation. Dans leur analyse du dossier, les experts du gouvernement reconnaissent qu'il est fort probable que la route 199 soit endommagée ou que la sécurité des personnes soit menacée par de prochains événements de tempête. Est-ce que le gouvernement entend fournir aux îles de la Madeleine la somme nécessaire pour effectuer les travaux urgents de réparation et de prévention? Aider les communautés et prévenir les risques liés au changement climatique sont une priorité pour notre gouvernement, répond le cabinet du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Benoît Charette. Le bureau du ministre ajoute que le gouvernement a déjà injecté 120 millions de dollars au Québec dans les projets visant à lutter contre l'érosion côtière, un phénomène qui frappe aussi le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Un bureau de projet en érosion et en submersion côtière a aussi été mis sur pied pour accompagner les régions et les municipalités. Vous écoutez, la crise climatique imposera des choix difficiles aux îles de la Madeleine. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir. Choix difficile. Malgré les investissements réclamés par les Madelinots afin de préserver leur territoire, le maire ne se fait pas d'illusions. Les répercussions de la crise climatique imposeront des décisions potentiellement ardues dans les prochaines années. Il y aura des choix difficiles à faire dans le futur. Il faut donc se préparer le mieux possible pour que les choix à faire soient moins déchirants dans un futur rapproché ou plus éloigné. Mais il est clair que nous ne pourrons pas tout sauver et tout préserver aux îles de la Madeleine avec des projets de plusieurs millions de dollars à la grandeur de l'archipel. Ce n'est pas envisageable, admet-il en entrevue. Le maire Valiquette cite en exemple le déplacement ou la démolition de bâtiments comme des maisons ou des commerces. C'est quelque chose à ne pas écarter, dit-il, en soulignant que ce genre de décision bouleverse des projets de vie au sein d'une communauté déjà très préoccupée par les conséquences du réchauffement climatique. L'enjeu que nous avons, aux îles, c'est que nous n'avons pas d'arrière-pays. L'exiguïté du territoire ne nous permet pas une mobilité incroyable pour les infrastructures importantes, ajoute-t-il. En plus d'être un milieu de vie pour un peu plus de 13 000 personnes, le décor unique et magnifique des îles de la Madeleine est une destination touristique très prisée au Québec. Antonin Valiquette souhaite donc préserver tant la communauté que l'attrait pour les visiteurs. Nous sommes capables d'aménager le territoire de la façon la plus efficace possible, mais c'est un enjeu auquel il faut réfléchir très sérieusement. Ça fait partie de notre quotidien, de gérer le territoire en fonction des changements climatiques. L'élu demeure toutefois optimiste. À cœur vaillant, rien d'impossible. Nous avons des citoyens résilients et nous sommes une communauté dynamique qui produit de la richesse au Québec. Les îles de la Madeleine ne sont pas près de disparaître. On s'adapte et on fait face à des défis, mais on peut trouver des solutions innovantes pour mieux se protéger. Un Québec mal préparé pour l'érosion. Les ministères responsables de l'adaptation aux conséquences de l'érosion et de la submersion côtière gèrent mal les risques de ce défi crucial pour le Québec dans un contexte de réchauffement climatique, selon un rapport publié l'an dernier par la commissaire au développement durable. Pourtant, selon le plan pour une économie verte 2030, si aucune mesure d'adaptation n'est mise en place, plus de 5000 bâtiments et près de 300 km de routes pourraient être exposés et subir des dommages causés par l'érosion d'ici 2065. La facture atteindrait au moins plusieurs centaines de millions de dollars. Le rapport de la commissaire rappelle ainsi que l'adaptation est moins coûteuse que l'inaction, puisque chaque dollar investi en adaptation, au-delà des vies préservées, permet d'éviter en moyenne entre 13 et 15 dollars en dommages directs, résultant de sinistres et en dommages indirects pour l'économie. C'était « La crise climatique imposera des choix difficiles aux îles de la Madeleine », un texte d'Alexandre Shields, paru le 4 janvier 2024 dans Le Devoir.
Greffe d'un œil, la vision pour bientôt, un texte de Alban Claver, paru dans le magazine Cerveau et Psycho le 16 janvier 2024. Le 27 mai dernier, le docteur Eduardo Rodriguez de l'hôpital universitaire new-yorkais NYU Langone Health, entouré d'une équipe de 140 chirurgiens et personnels médicaux, a réalisé la première greffe d'un œil complet sur un patient. Aaron James, un Américain de 46 ans, avait perdu toute la partie gauche de son visage après avoir reçu une décharge électrique de 7000 volts sur une ligne à haute tension. Aujourd'hui, la greffe n'est pas rejetée et l'œil montre des signes de récupération. Mais sans vision pour l'instant. D'où la question : l'organe va-t-il retrouver sa fonction ? Pour y répondre, une plongée dans le système nerveux s'impose. L'œil transmet les informations visuelles au cerveau via le nerf optique, composé d'une multitude de fibres, les axones des neurones de la rétine. Les neurones du nerf optique du patient ont été détruits à la suite de son accident. Dès lors, ils ne peuvent pas se reconnecter spontanément au nerf optique du donneur. La solution est donc de renouveler la population de neurones. Lors d'une greffe d'un organe périphérique comme la main, les neurones repoussent spontanément. Mais aucune capacité de régénération spontanée n'a été observée à ce jour dans le système nerveux central, qui comprend le cerveau, mais aussi le nerf optique et le nerf olfactif. Dès lors, il faut donner un petit coup de pouce à l'œil nouvellement greffé pour qu'il puisse espérer se connecter au cerveau du patient. Actuellement, la recherche travaille à produire de nouveaux neurones à partir de cellules souches et à les introduire dans le nerf optique pour favoriser la reconnexion de l'œil au cerveau ou restimuler la croissance d'éventuels neurones survivants. Si les résultats en ce domaine sont encourageants chez l'animal, il faudra patienter encore quelques années pour parvenir à restaurer la vision chez l'homme. Dans tous les cas, l'opération d'Aaron James marque un jalon important dans cette aventure, susceptible d'apporter des informations cruciales aux chercheurs pour développer de nouveaux protocoles de régénération du nerf optique. Sans compter l'aspect esthétique prépondérant pour le patient. C'était « Greffe d'un œil, la vision pour bientôt », un texte de Alban Claver, paru dans le magazine Cerveau et Psycho, le 16 janvier 2024.
Dans la tête et le cœur des rois de l'influence. Un texte d'Aurore Hemlet, paru dans l'édition novembre 2023 du magazine Psychologie. On sait bien pourquoi les pros du marketing, de la politique ou de l'influence ont recours au levier de la manipulation. Mais quand ce sont nos proches, avec l'estime qu'on leur porte, on gagnerait à les comprendre. Que se passe-t-il dans leur tête? Qu'ont-ils vraiment dans le cœur? Certes, on voit bien où veulent en venir celles et ceux qui cherchent à vendre un produit ou susciter l'adhésion. Mais dans la vie privée, celle de tous les jours, comment un ami, un conjoint, un parent peuvent-ils, pourquoi veulent-ils laver un autre cerveau que le leur? C'est en comprenant leur motivation souterraine, consciente ou non, qu'on peut déjà prendre du recul, conserver son libre arbitre et se protéger des entourloupes. Mais attention, chercher à expliquer ces comportements conduit parfois à les excuser, prévient Anne-Laure Buffet. Or, c'est le but même des grands manipulateurs. légitimer leur conduite. Méfiance donc, y compris dans le diagnostic que chacun tâchera de poser. Mieux vaut lever le voile qui masque la manipulation sans jouer à l'enquêteur de service, et encore moins au psy. Un besoin d'exister coûte que coûte. Pour y voir clair, il est important de mieux saisir le but plus ou moins avoué de ces acrobates. Il en existe plusieurs, reprend la thérapeute. Les manipulateurs peuvent chercher à accroître leur pouvoir, leur contrôle, leur sentiment de puissance pour nourrir leur sentiment d'existence. Ils peuvent aussi manœuvrer pour entretenir un lien qui leur semble important ou fuir une angoisse de solitude. Dans d'autres cas, ils tentent de nourrir un égo défaillant. Par la manipulation, ils captent les qualités, les compétences de leur victime. Ou encore, ils essayent de donner un sens à leurs actions et pensées en savourant les effets qu'elles ont sur l'autre parce que, en eux-mêmes, ils ne le trouvent pas. En bref, les personnes qui manipulent le font toujours pour mettre un terme à un conflit intrapsychique qu'elles ressentent profondément, à une angoisse qu'elles ne peuvent réguler seules et autrement qu'en utilisant autrui. On imagine rapidement que ces personnages bénéficient d'une assurance sans faille. Or, c'est souvent tout le contraire. Il s'agit plutôt d'un manque profond et existentiel d'estime de soi, cumulé avec un refus de l'altérité, de l'équité, observe la thérapeute. Ils ont besoin de combler un vide abyssal. Se sentant inférieurs, frustrés, privés de valeurs qu'ils considèrent comme essentielles, ils pensent se nourrir en s'appropriant puis en contrôlant l'autre. Plus ils le vident de sa propre estime, plus leur sentiment de puissance et de supériorité se développe. Les vases sont, pour eux, communicants. Une pression interne et externe. L'estime de soi est donc particulièrement fragile chez les manipulateurs. Et les raisons de ce narcissisme en berne sont multiples. Là encore, on peut trouver un ou plusieurs facteurs qui souvent se cumulent, mais qu'il n'est pas question d'évaluer en pourcentage. Ils sont à la fois endogènes et exogènes, précise Anne-Laure Buffet. Côté endogène, il y a le tempérament ou le caractère de chacun. Tout le monde ne possède pas, spontanément, un charisme, un don pour la parole jusqu'à la rhétorique, une capacité à charmer, à fédérer. Évidemment, ces compétences naturelles ne conduisent pas toujours à manipuler. Cependant, elles sont un terreau possible qui ne demande qu'à être alimenté et qui servira la première arme de la manipulation, la séduction. Côté exogène, l'éducation, l'environnement familial, le lien à l'autre développé depuis le plus jeune âge sont bien sûr des éléments importants. Celles et ceux qui grandissent avec une faille affective et ou relationnelle vont souvent chercher à la combler, à passer outre leur vulnérabilité ou s'atteler à la faire disparaître. La société actuelle a également des incidences. Individualiste et concurrentielle, elle promeut l'ego et valorise les compétences liées à la réussite, à l'apparat. À l'heure où plus personne ne rechigne à se montrer, à se livrer, où chacun apprécie d'être vu, remarqué, où l'influence a le statut de métier, certains n'hésitent plus à manipuler leur entourage pour redorer leur blason. Enfin, dans la liste des facteurs possibles, on trouve également les chocs et les accidents de la vie. Les traumatismes, agressions, violences, deuil, et d'autant plus s'ils ont été vécus pendant l'enfance ou l'adolescence, ont souvent des conséquences lorsque rien de construit n'a pu être élaboré. Ces blessés vont chercher à surmonter l'épreuve dans un mécanisme d'inversion en prenant la place de l'agresseur. Vous écoutez dans la tête et le cœur des rois de l'influence, un texte d'Aurore Hemlett paru dans l'édition novembre 2023 du magazine Psychologie. Un regard tourné vers soi. Savent-ils seulement ce qu'ils font et l'impact de leur conduite sur les autres? Pas toujours. Selon Anne-Laure Buffet, il est difficile de savoir ce qu'ils pensent réellement, d'autant que, entre ce qu'ils pensent consciemment et ce qu'ils pensent inconsciemment, il peut y avoir une fracture clivante. Il est en fait davantage question de ressenti que de raisonnement, en tout cas en première instance. Ils sont conduits par l'émotion. La colère, l'envie et la peur se mélangent et les chahutent au point que la manipulation semble indispensable à la sauvegarde de leur équilibre si précaire. Une fois le système mis en place, ils pensent essentiellement à comment conserver ou développer leur pouvoir. C'est donc une réflexion tournée uniquement vers eux-mêmes et concentrée sur la stratégie permettant de maintenir le mécanisme qu'ils ont instauré. Focalisés sur le but qu'ils poursuivent mais ne reconnaissent que rarement, ils ne pensent pas à l'autre, dont ils ont pourtant cruellement besoin. Leur plus grande peur est de se retrouver seuls. Ils n'existent qu'à travers et grâce à cet entourage qu'ils dominent. En sont-ils pleinement conscients? Là encore, je ne pense pas. De même, il n'est pas possible d'affirmer qu'ils font volontairement du mal à leurs victimes. Ils ne regardent pas forcément les conséquences de leur comportement sur l'autre. Ce qu'ils observent, c'est le résultat pour eux-mêmes. C'est la manière dont leur angoisse est apaisée, dont leur satisfaction est alimentée, dont leur jouissance est rendue possible grâce à la manipulation. Et plus elles le sont, plus elles se doivent de le rester pour que le manque existentiel qui semble momentanément comblé par la domination continue de s'estomper. Après les vases communicants, le cercle vicieux. Un talent pour les promesses non tenues. Les manipulateurs séduisent par leurs promesses. Leur discours donne envie, attire, provoque chez l'autre la compassion, suscite l'intérêt ou encore génère le besoin puisqu'ils lui font croire qu'il est lui-même en difficulté, voire en souffrance, et que la relation manipulatrice est la solution, explique la thérapeute. Cependant, leurs actes sont à l'inverse de leurs propos. Les promesses apparemment bienveillantes de bien-être, de protection, de sécurité, d'amour, de complicité, de partage, de développement ne sont jamais tenues. Elles sont toujours soumises à certaines conditions, des conditions fixées le plus souvent implicitement. Les manipulateurs s'arrangent pour que l'entourage pense qu'il ne les a pas remplies, qu'il a commis une faute, une erreur, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il a mal compris, mal perçu. Voilà pourquoi les vœux pieux restent lettre morte, et les promesses pourraient même se voir remplacées par des sanctions si les fins stratèges jugent l'impair trop grand ou trop risqué lorsqu'ils craignent que celui-ci leur fasse perdre le contrôle. Ou la fasse. Aux yeux des manipulateurs, tous les coups sont permis, tant que les armes psychiques, émotionnelles et affectives utilisées parviennent au but recherché. Ils possèdent tout un arsenal. La fausse gentillesse, l'omniprésence ou la fausse pudeur, les injonctions directes et indirectes, la menace, la comparaison, l'encensement ou la dévalorisation, l'isolement et la critique de l'entourage, la moquerie, le sadisme. Et parfois, tout cela réunit en un terrible cocktail. Ils enserrent leurs victimes dans leur filet comme l'araignée tisse sa toile autour de ses proies. Et plus la victime se débat, plus le filet se resserre. Une quête perpétuelle de puissance. Alors, parfois, on se demande à quoi bon lutter et si céder n'est finalement pas le meilleur moyen de se protéger. Mais ce faisant, on accroît malgré soi leur pouvoir et leur désir de puissance. Ils ressentent dès lors une forme de jouissance qu'ils vont chercher à renouveler, indique Anne-Laure Buffet. Il est probable qu'on soit de nouveau mis à l'épreuve, privé peu à peu de résistance et de ressources. Par ailleurs, leur CD n'apaise pas la relation dysfonctionnelle, bien au contraire. S'ils semblent dans un premier temps récompensés, leurs proches d'avoir consenti à se conformer à leurs désirs, la récompense est toujours viciée, car, parallèlement, cette capitulation le dévalorise. Elle témoigne de sa faiblesse, de son incapacité, de son manque de libre arbitre ou d'autonomie. La rébellion est toutefois risquée. Si on ne leur cède pas en tentant de les raisonner, les manipulateurs se sentent évidemment frustrés. Éprouvés par l'angoisse de perdre la main, ce qui signerait la limite de leur puissance, donc de leur existence, ils peuvent se mettre en colère et se montrer cruels, voire criminels. Tout ce qui atteint leur pouvoir, le fragilise ou le nie, selon eux, bien sûr, est insupportable. Ils peuvent alors mettre en place différentes tactiques, allant jusqu'à la destruction psychique pour effrayer autrui et ainsi récupérer leur autorité. Ils le rejettent, lui qui pourtant tente souvent de rétablir le lien, ou au contraire le harcèle, jusqu'à ce que, enfin, il cède. Le mieux est de s'en éloigner, au moins psychiquement. La victime a besoin de temps et de recul pour soigner les blessures causées par la manipulation, comprendre ce qui a permis et nourri la relation, ne plus souffrir et recouvrer sa liberté comme son identité. Seuls les manipulateurs peuvent prendre conscience de la portée de leurs actes, conclut la thérapeute, et décider d'y mettre un terme, ou pour le moins, de travailler à modifier profondément leur façon d'être au monde. C'était « Dans la tête » et le cœur des rois de l'influence, un texte d'Aurore Hemley paru dans l'édition novembre 2023 du magazine Psychologie.